VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Élection présidentielle au Gabon samedi, le candidat d'opposition Jean Ping, 73 ans, promet de libérer le Gabon de la dictature. Celui qui fut un des piliers du régime Bongo pendant plus de 20 ans représente aujourd'hui la menace la plus sérieuse pour le président sortant Ali Bongo Ondimba. Alan Bertson.
Outre les deux favoris, 9 autres candidats sont en lice pour ce scrutin à un seul tour. Celui qui arrivera en tête sera élu pour un mandat de 7 ans. Beaucoup au Gabon redoutent d'ores et déjà des troubles à l'annonce des résultats. Car en 2009, la victoire d'Ali Bongo avait été contestée par l'opposition, provoquant des violences, notamment dans la capitale économique Port-Gentil. Fils aîné de l'ancien président, Ali Bongo, 57 ans, a battu campagne sous le slogan « Changeons ensemble », en mettant en avant les réalisations de son septennat, routes, hôpitaux et la rupture avec les pratiques financières du passé, évaporation des fonds publics, gestion obscure des ressources pétrolières. L'opposition dénonce avec virulence une politique de prédation orchestrée par, je cite, « une légion étrangère de nouveaux collaborateurs entourant le chef de l'État ». Dans ce climat, les échanges verbaux ont été particulièrement virulents pendant la campagne. Une interminable polémique, ponctuée de poursuites judiciaires sur la filiation du président sortant, a empoisonné les débats pendant des mois.
En RCA, la lutte contre l'épidémie de choléra se poursuit. La maladie, dont les premiers cas ont été signalés début août, a déjà fait 19 décès pour 169 cas recensés. Pour stopper la progression du choléra, des ONG nationales et internationales se mobilisent et plusieurs points de riposte et de réhydratation sont installés le long du fleuve Oubangui. Les explications du docteur Michel Yao, représentant de l'OMS en Centrafrique.
En tant qu'agence technique en appui direct au ministère de la Santé, nous travaillons en étroite collaboration pour nous assurer que les cas sont détectés rapidement et qu'une réponse est apportée avec les équipes de réponse rapide que nous avons mis en place pour faire la détection, la prise en charge des cas, désinfecter les localités.
Le docteur Michel Yao, représentant de l'OMS en RCA. Le choléra sévit également en RDC et les Nations Unies ont exprimé mercredi à Kinshasa leurs préoccupations face à l'extension dans le pays de l'épidémie qui a déjà touché 15 000 personnes et fait plus de 380 morts depuis le début de l'année. Les précisions de Nani Talani.
La situation est très préoccupante. Le choléra est en train de se propager en RDC, où on a déjà franchi la barre de 15 000 cas et 382 décès depuis le 1er janvier, a déclaré Eugène Kabombi, chargé de communication de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. D'après Florence Marshall, une porte-parole onusienne, cette épidémie poursuit son extension non seulement le long du fleuve Congo, mais aussi dans la province du Nord Ubangi, dans le nord-ouest de la RDC, à la frontière avec la République centrafricaine et le long de la rivière Ubangi. Pour Yves Wilmot, un porte-parole de l'UNICEF, il faut un travail de conscientisation des populations de la partie ouest du pays qui ne sont pas habituées à la problématique du choléra. Selon l'OMS, une réunion transfrontalière entre les autorités sanitaires de la RDC et celle de la République centrafricaine sera organisée dans les jours à venir afin de définir les stratégies communes de lutte contre cette épidémie.
RDC toujours poursuite à Beni dans le Nord Kivu du procès des présumés rebelles ougandais des ADF accusés d'être responsables de l'insécurité et des massacres de civils dans cette région de l'Est du pays. Plus de 150 d'entre eux, qui appartiennent d'ailleurs à différentes nationalités, doivent être entendus par les juges de la cour militaire qui siège depuis samedi à Beni. Le compte-rendu de notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
C'est un procès attendu depuis longtemps dans la région de Beni. Jonathan Piema est avocat de la partie civile, devant lui une centaine de dossiers des victimes qui attendent réparation.
Je défends la cause des opprimés. La finalité de la procédure, c'est par un jugement d'abord. Et ensuite, nous voulons aussi que nous puissions être indemnisés comme partie civile, parce que nous avions perdu. C'est un procès qui peut prendre beaucoup de temps. Il y a plus de 1000 victimes qui sont là.
La société civile de Beni demande également la comparaison disparition de tous les éléments de l'armée congolaise suspectés, mais aussi Djamil Munkulu, le chef des ADF qui se trouve aujourd'hui en Ouganda en prison. Gilbert Kambale coordonne les activités de cette société civile ici à Beni.
Il y a également certains officiers, que ce soit de la MONUSCO ou les hommes des troupes des FARDC, parce que là où on a tué les gens à 200 mètres, à 300 mètres, des positions, en tout cas on doit leur poser des questions, ou participer comme renseignant ou comme prévenu, mais également Djamil Munkulu.
Pour les milliers de populations venues pour assister aux audiences, les attentes et opinions divergent concernant ces procès.
À mon avis, je peux dire comme ce sont des aventures. On est en train de voir. Non, ce n'est pas pour apaiser la population, c'est pour remonter encore la colère à la population. On n'a jamais vu qu'un corps d'un Ougandais ici, c'est toujours le militaire congolais, toujours le militaire congolais. Où sont-ils?
Mais as-tu à quoi satisfait?
Jusque-là, nous ne sommes pas satisfaits. On n'a pas encore eu la vérité sur les vrais commanditaires qui envoyaient ces ADF, même 10 ans après. Donc nous allons attendre la fin de ce procès pour savoir la vérité.
Les avocats qui assistent les prévenus ADF se sentent incompris par la population des Béni. Maître David Bouambale dit défendre ces ADF au nom de son métier et de la concession de la RDC sur les principes et des présomptions de l'innocence de tout individu devant la justice.
Nous sommes constamment conspués, indexés par la population qui ne comprend pas comment nous pouvons jouer ce genre de rôle. Et nous nous rétorquons qu'il s'agit d'un travail que nous accomplissons conformément à la Constitution. Notre objectif n'est pas de les sauver. Nous, comme avocats, nous avons l'obligation des moyens. Nous n'avons pas l'obligation des résultats.
Les procès promet d'être longs, mais la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, siégeant en chambre foraine, promet d'aller jusqu'au bout. Charlie Kasereka, depuis la ville de Beni, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La 6e conférence nippo-africaine TICAD s'ouvre samedi à Nairobi, au Kenya, avec la volonté pour Tokyo de se démarquer de l'aide fournie par Pékin. C'est la première fois depuis son édition initiale en 1993 que la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, se tiendra sur le continent africain et non au Japon. Le premier ministre japonais Shinzo Abe et plusieurs membres de son gouvernement participeront les 27 et 28 août à cette conférence qui définit le programme d'assistance du Japon à l'Afrique. Une trentaine de chefs d'État africains seront de la partie, dont le président kényan Uhuru Kenyatta et son homologue sud-africain Jacob Zuma, avec qui M. Abe tiendra aussi une réunion bilatérale. Présidentielle américaine maintenant, parallèlement à l'affaire des emails de la candidate démocrate Hillary Clinton, c'est maintenant la question des dons à la fondation de son époux, l'ex-président Bill Clinton, qui fait des vagues. La polémique résulte de la récente analyse de l'agence Associated Press sur ce sujet. Timothée Donangmaï.
Selon l'agence, plus de la moitié des personnes qui l'ont rencontrée alors qu'elle était secrétaire d'État, ont fait des contributions financières personnelles à la Fondation Clinton ou l'ont fait à travers des compagnies ou des associations. Pourtant, la candidate démocrate se concentre sur sa campagne, n'ayant aucun projet immédiat d'interview ou de conférence de presse pour s'expliquer sur ses dossiers. Elle n'a aucun conflit d'intérêt avec les œuvres charitables de la Fondation Clinton, assure Robbie Mook, porte-parole de l'équipe Clinton, ajoutant que l'analyse d'Associated Press est biaisée dans la mesure où, dit-il, celle-ci ne prend pas en compte les rencontres au département d'État entre Mme Clinton et des responsables gouvernementaux ou étrangers. Pour l'heure, Mme Clinton devance Donald Trump dans les sondages d'opinion au plan national, si bien que ses conseillers jugent peu utile pour elle de se livrer à un exercice d'explication à ce stade. Son discours prévu ce jeudi à Reno dans le Nevada aura donc pour cible Donald Trump. Trump lui-même appelle à la fermeture immédiate de la Fondation Clinton et à la désignation d'un procureur spécial pour ouvrir une enquête à ce sujet.
La guerre au Yémen maintenant, l'ONU a réclamé aujourd'hui la création d'un organisme international indépendant pour enquêter sur les violations des droits de l'homme dans le pays en proie à un conflit qui a fait plus de 6 000 morts depuis 17 mois. Les civils au Yémen souffrent de manière insoutenable en dehors de toute forme de justice, tandis que l'impunité prévaut pour les personnes responsables de violations, a déclaré le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, en réclamant une enquête internationale indépendante. Et pour terminer, en Italie, les secouristes police continue de fouiller des tonnes de décombres aujourd'hui après une nuit de recherche apparemment profructueuse dans l'espoir de trouver des nouveaux survivants après le séisme qui a fait au moins 247 morts dans le centre du pays. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.